Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Amici et vient de poser ses valises sur la terre ferme après 12 mois sur un bateau. Avec son mari Mathieu et leurs trois filles, deux jumelles de 5 ans et une petite fille de 2 ans, cette brune solaire et souriante a parcouru les océans pendant un an et surtout, elle a traversé l'Atlantique. Juste pour nous, elle revient sur ce rêve d'enfant. Cette aventure familiale incroyable entre nuit étoilée, mer agitée, grande frayeur et moments fabuleux hors du temps. Mais comment on se prépare pour une aventure aussi dingue quand on ne sait pas naviguer? Comment assure-t-on la sécurité de trois enfants de moins de 5 ans sur les océans? Comment vivre la solitude des marins quand on adore être en smala et faire la fiesta? Revenue depuis tout juste une semaine, Amici a encore des étoiles plein les yeux et parfois la gorge nouée. Elle nous raconte comment l'idée de ce trip est arrivée et la préparation du voyage, entre le bateau parfait à dénicher, le trajet à imaginer, l'école des grandes, les valises à embarquer, la formation de sécurité, la construction du trajet et l'installation sur ce bateau qui est devenu sa maison. Elle nous parle aussi de son départ de Corse, de ses soirées gravées à vie avec les copains rencontrés sur la route, d'une traversée qui a failli si mal tourner, de ses journées de navigation où le soleil dicte le rythme, de cette vie de bateau parfois si rude, de ce départ du Cap Vert pour 15 jours de traversée de l'Atlantique, et de tous ces instants qui resteront pour eux gravés à tout jamais.
Bonjour Amici.
Bonjour Marie.
Je suis trop contente de t'avoir. Enfin, tu viens de rentrer à Paris, j'ai l'impression.
Je suis rentrée il y a 10 jours à peu près.
Après quel voyage alors?
Le tour de l'Atlantique, on est parti une année avec mon mari et mes trois filles. J'ai des jumelles de 5 ans et une fille qui a 2 ans. Et on est parti en juillet l'année dernière et on est rentré là en juin.
12 mois sur l'eau.
11 mois.
11 mois,
11
sur,
mois
l'eau.
Sur l'eau.
Toi, tu skips déjà, ton mari skip.
Pas du tout.
Comment?
Non, non, moi je skip. Moi je suis complètement inutile sur un bateau. Même aujourd'hui, franchement, j'ai un peu honte de mon niveau, compte tenu du fait que j'ai passé un an sur un bateau. Mais je suis très à l'aise sur un bateau. J'adore même le côté, parce qu'on ne va pas se mentir, sur un bateau, ce n'est pas toujours très confortable. Il y a un côté quand même très roots. Et j'ai toujours adoré. Depuis qu'on a 18 ans, on fait des croisières avec tous nos copains sur des monocoques pendant une semaine l'été. Donc on l'a fait 5 fois. Et sur des bateaux pas du tout confortables. Et j'ai toujours adoré, je me suis toujours sentie trop bien.
Oui, la promiscuité et la simplicité, ça te dérange pas du tout?
Non. Et mon mari a fait beaucoup de bateaux avec son grand-père et son père en Corse. Et lui, depuis qu'on a 18 ans, c'est lui qui skippe.
D'accord.
Donc lui, il est très à l'aise.
Déjà quand même un homme de confiance.
Lui, il est très à l'aise en bateau.
Et donc, comment ça se passe? Un matin, vous réveillez, vous dites, allez, en fait, je sais ce qu'on va faire.
Non,
on va traverser l'Atlantique avec nos trois enfants de moins de 5 ans.
Non, alors déjà, on s'était dit qu'on allait faire une aventure familiale, sportive. Et mon mari bossait comme un dingue. Et on s'était dit, si un jour il arrive à vendre sa boîte, eh ben, on se fera un kiff d'une année en famille. Il a vendu sa boîte. Et là, on s'est dit, bon, bah, alors pendant 3 ans, il était bloqué. Voilà. Et on s'est dit, bah, quand on a la date de déblocage, on part un an. Et lui m'a dit, bah, si on part un an, c'est en bateau. Et moi, j'ai dit, bah, go. Direct. Et moi, j'étais à mon compte. À ce moment-là, j'avais un peu ralenti le rythme à la naissance de ma dernière fille. Et du coup, j'avais pas tellement de... Enfin, j'étais pas dans une entreprise, etc. Bah, c'est juste que j'allais pas gagner de sous pendant un an. Mais je pouvais mettre entre parenthèses mon activité.
Ta vie pro.
Mon activité. Et lui, en fait, bah, du coup, comme la boîte était vendue, il avait plus d'activité non plus. Du coup, on s'est dit, go, on part un an.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quelles sont les étapes? Tu décides d'abord du périple que tu vas faire? Tu cherches un bateau?
Ouais.
Dans quel sens on fait tout ça?
Alors déjà, quand on s'est dit go, on part en bateau, et on a eu la date hyper tard, nous, parce qu'évidemment, comme il ne partait pas quand il voulait, en fait, c'était la société qu'il avait rachetée qui décidait sa date de départ. Du coup, on l'a su assez tardivement, et à partir du moment où on a eu cette date, on s'est dit, on a fait un dîner avec des amis d'amis qui avaient fait exactement ce voyage-là d'une année en bateau. Et là, ils nous ont dit, bah, clairement, la première étape de l'aventure, c'est l'achat du bateau. Parce qu'une fois que t'as pas ton bateau, il n'y a rien de concret.
Ne fais pas de plan sur la comète tant que tu sais.
Exactement. Et c'est quand même pas évident non plus de trouver un bateau. Parce que des bateaux, il y a toutes sortes de bateaux. Fallait savoir qu'est-ce qu'on voulait comme bateau, quel budget. Puis, tu trouves pas forcément un bateau en France. Parfois, faut aller récupérer à l'étranger, etc.
Et donc là, tu cherches où? C'est des sites internet?
En fait, on avait prévu, c'était en octobre, donc juste 9 mois avant de partir, on avait prévu de faire un week-end en amoureux à Marseille pour un anniversaire de mariage. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait le salon nautique de La Rochelle. Et là, on s'est dit, bah, vas-y, j'ai regardé, l'hôtel peut s'annuler, billet de train, on annule. Et là, on est parti.
Week-end de love à La Rochelle.
Week-end love à La Rochelle, parce que c'est très sympa aussi. Et là, on a été au salon nautique de La Rochelle, on a regardé, on dit, mais c'est rien. Enfin, on connaissait, on avait déjà loué des monocoques, mais déjà en Qatar, on savait qu'on voulait partir en Qatar. On n'y connaissait absolument rien en Qatar, donc on a vu un peu les différentes marques, on a visité les bateaux.
Tu voulais l'acheter neuf ?
Non, pas forcément. D'accord. Enfin, on n'avait pas... voilà. Après, il y a une réalité, c'est que le neuf, c'est quand même beaucoup plus cher que l'occasion. Du coup, on a visité... Enfin, on a vu deux marques assez connues en Qatar, et on a vu une marque où on a dit, mais top, c'est parfait, génial. On est rentré à Paris, on a regardé ce qu'il y avait en seconde main sur ce modèle-là.
Et tu regardes où en seconde main ?
Sur Internet.
Mais sur Le Bon Coin ou sur...
Non, ouais.
Il y a des sites un peu spécialisés ?
Ouais, exactement. Il y a des sites spécialisés, je pense, comme Se Loger, avec, qui répertorient tous les bateaux en vente. Et après, c'est via des agences, quoi. Mais sauf qu'il y a beaucoup moins de bateaux que d'appart. Enfin, nous, sur notre modèle de cata qu'on voulait, il y en avait peut-être 5 de dispo, dont 3
Tu l'as trouvé où ?
Enfin, il y en avait peut-être 2 en Australie, 1 en Martinique. Et le nôtre, il était à Toulon.
Ah, facile.
Il était à Toulon, bah nickel.
Et donc, tu fais quoi ? Tu vas le voir ?
Et bah du coup, nous on avait beaucoup de chance parce qu'il était il était dans une agence de loc. Du coup, on l'a loué 3 jours avec les jumelles et on s'est dit bah vas-y, on va le louer 3 jours et comme ça avec les enfants, pas la petite. Comme ça, on va voir si moi je vais voir tout de suite si je suis à l'aise dedans et si je me projette.
Les filles, elles savent nager ou pas à ce moment-là?
Bah non, à ce moment-là, elles avaient 4 ans, donc elles savaient pas encore nager. Du coup, on l'a loué 3 jours et moi j'avais jamais été sur un aussi beau bateau parce qu'on avait toujours été sur des petits monocoques un peu routes et tout. Donc moi vraiment, on est rentré de ce voyage, j'ai dit mais évidemment que je me vois tout à fait habiter un an sur ce bateau. C'est le rêve, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout
à quoi, autant d'espace ou que ce soit aussi pratique,
aussi confort, en fait. Je savais pas qu'un cata. Enfin, on avait déjà loué une fois un cata aux Grenadines. On avait fait une croisière avec des copains, mais pas sur un cata aussi confort.
Et là, il y a combien de cabines et tout dans ce cata?
Alors celui-là, il y avait 3 cabines. Donc d'un côté, en fait, il y avait toute une coque, ce qu'on appelle une coque propriétaire, donc ce qui nous est une immense, tout est relatif, hein. Pour un bateau, une grande cabine, et on avait toute l'autre partie au lieu d'une cabine, c'est une grande salle de bain. Donc on avait une grande douche à l'italienne, j'avais limite un dressing, etc. Je vous montrerai des photos. Alors, ça paraît immense comme je dis comme ça, évidemment, c'est pas grand du tout, mais pour un bateau, c'est quand même...
Donc ça, c'était ta suite parentale.
Exactement, et de l'autre côté, il y avait 2 cabines, avec 2 petites salles de bain.
D'accord.
Enfin, 2 petites.
Et pour traverser entre les deux, t'es obligé de sortir sur le pont?
Non.
Ou tu passes à l'intérieur?
Non, en fait, au milieu, t'as un carré avec une cuisine, un petit salon, et tu descends de marche, t'as une cabine, notre cabine, la cabine propriétaire, et tu descends de marche, t'as une cabine.
D'accord.
2 cabines, quoi.
Donc, ok, on montrera des photos.
Je montrerai.
Donc, tu rentres et tu dis, on achète celui-là, c'est bon, je suis prête.
Non, mais j'étais. Je dis à Marie, si on a le budget, mais moi,
si on a le budget, c'est ok, quoi.
Go, exactement. Et après, évidemment, on a fait une offre, voilà, on a réussi à trouver un terrain d'entente, ça a été accepté, et 3 mois après, on avait le bateau. Donc j'avoue que ça a été... Après, bon, c'est une grande chance aussi, parce qu'on on avait la chance d'avoir un budget correct.
Mais ce que tu dis, ça peut... À partir de combien on peut acheter un bateau comme ça, de seconde main?
Alors en fait, le bateau, il y a vraiment de tout. Typiquement, pendant le voyage, j'ai rencontré 2 étudiantes de 20 ans, 2 petites parisiennes absolument incroyables, qui ont pris une année sabbatique pour faire exactement le même voyage que moi, le tour de l'Atlantique de Nénette, hein, de 20 ans. Et elles, donc elles ont fait un prêt étudiant, elles ont emprunté 20 000 euros chacune, elles ont trouvé un bateau à 8 000 euros. Mais alors, faut voir le bateau, c'est un First 30, pour pour ceux qui connaissent un peu le bateau, c'est un tout petit monocoque. Elles n'avaient pas de frigidaire, elles n'avaient pas de salle de bain, elles avaient limite des toilettes, etc. Et tu verrais les nanas, les petites minettes, trop jolies, hyper bien habillées. Tu vois leur bateau. Alors moi, c'était mes idoles pendant tout le voyage parce que je trouve ça admirable de faire ça. Donc elles, elles avaient un bateau à 8000 euros et on avait des copains qui avaient des catas absolument incroyables à 2 millions d'euros. Okay. Donc il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et après, il y avait un monocoque, un beau monocoque, ça peut aller dans les 80 000 euros. Et effectivement, un cata, ça peut aller entre 200 000 euros et plus de 2 millions d'euros. Donc, c'est,
d'accord.
Tout dépend du modèle, de la marque, de la taille.
Et de son âge, peut-être, si tu achètes seconde main, neuf.
Bien entendu, si on achète un peu plus vieux, on peut tout à fait trouver des prix corrects. Et si on achète du neuf, c'est évidemment beaucoup plus cher.
Donc, tu as ton bateau.
Donc là, ça a été assez rapide. Donc on a eu le bateau. En plus, on avait de la chance, il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Parce que souvent, la plupart des gens achètent des bateaux. Et en fait, pendant 2 ans, ils les retapent.
D'accord.
Ils les customisent, etc. Parce que c'est là où tu peux un peu faire un coup. C'est t'achètes un bateau à un prix et après, tu le pimes, quoi.
Exactement. Tu le pimes et après, tu le revends bien après ton voyage.
Exactement.
Donc tu as un bateau, mais toi, t'es prête ou t'es pas prête? Toi, tu vas prendre des cours de voile. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer un peu?
Non, alors moi, je savais que Mathieu, j'irai à fond. Je savais très bien qu'on pouvait partir. Après, ce qu'on a fait, c'est le plus important, c'est les formations.
Ouais.
Notamment, alors tu peux faire, mais nous, il nous restait finalement 6 mois à ce moment-là. Donc, tu peux faire 50 formations. Il y a des gens qui préparent leur voyage 4 ans avant. Donc ils font.
Mais quoi comme formation ?
Alors, j'aurais pu faire des formations de voile, typiquement. Mm-hmm. Moi, je n'avais pas le niveau du tout pour gérer le bateau toute seule, etc. Donc, j'aurais pu me faire 2 stages au Glénan pour être à l'aise sur le bateau. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu le faire. Après, c'est un budget aussi de faire beaucoup de formations. Ouais. Alors, mon mari, il a fait formation moteur. Parce que moteur, si tu as ton moteur qui te claque au milieu de l'Atlantique, bah là, c'est tout ton équipage qui est en danger. Donc, c'est indispensable. Météo, parce que si tu ne maîtrises pas la météo de manière professionnelle en bateau, c'est hyper dangereux.
Tu l'as fait où, ta formation?
Alors,
météo?
Moi, je ne l'ai pas faite.
Mais lui, il l'a fait où?
Il y a un organisme de formation, c'est en Bretagne. C'est un organisme de formation, mais il y en a plein.
D'accord.
Et tous les gens, tous les marins qui font la Route du Rhum, le Figaro, etc.
Ils vont faire ces formations.
Ils font toutes ces formations-là.
Okay. Tu les fais en ligne ou il est parti en Bretagne?
Non, tu le fais en vrai.
D'accord.
Et il y a aussi des formations justement pour le voyage, pour la grande plaisance, comme des voyages d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et donc, météo, donc ça, c'est vraiment la base. J'aurais aimé le faire, mais après, c'est un budget aussi, toutes ces formations.
D'accord.
Donc, on n'a pas tout fait tous les deux. Mais si on était illimité, j'aurais fait aussi la formation météo. Mais moi, je me suis concentrée. On a fait ensemble sécurité en mer.
Mm-hmm.
Donc, à savoir, en fait, au milieu de l'Atlantique, si on a un enfant qui s'ouvre ou si on a un passager qui se brûle ou autre, personne ne va venir nous chercher. Et même au milieu de la mer, il n'y a personne. À partir d'un certain nombre de miles au milieu, personne ne va venir nous chercher. Donc, il faut être complètement autonome. Il faut savoir recoudre, il faut savoir faire un plâtre, il faut savoir faire un massage cardiaque.
Tu sais faire tout ça, là?
Là, tout de suite, je disais à Mathieu, là, vraiment, si quelqu'un s'ouvre, est-ce qu'on est capable de se remémorer? Non, mais en tout cas, on l'a fait. On a appris à recoudre sur des pieds de cochon. On a appris à faire des massages cardiaques.
Ça, vous l'avez fait tous les deux?
On l'a fait tous les deux dans une formation qui durait 2 jours à Paris. Et on a acheté 2 valises médicales énormes avec absolument tout pour les traverser côtier, quoi.
OK. Et tes filles, tu les mets en cours de natation ou pas cette année-là?
Ah non, et pardon, j'ai fait une autre formation aussi très importante. C'est formation survie et sécurité en mer, c'est-à-dire homme à la mer. C'est un gamin qui tombe à l'eau. Savoir, notamment moi, typiquement, qu'est-ce que je fais techniquement? Donc savoir affaler la grand voile, allumer
d'accord,
le moteur.
D'accord, t'as quand même fait ça, parce que si ton mari tombe à l'eau, il faut que toi, tu
exactement,
puisses assurer. Exactement,
ça, j'ai fait une formation pour faire ça, et Mathieu m'a reformée à chaque fois, parce qu'il y a plein de moments, évidemment, où j'étais en panique, je me disais, si tu tombes à l'eau, je fais comment? Je suis incapable. Donc ça, j'avais quand même des bases. Et s'il y a un incendie à bord, si on doit déclencher le canot de survie, ce qui est arrivé quand même à des gens qu'on a... Voilà, ça, c'est quand même des choses qui arrivent, malheureusement, en mer, souvent. Donc, toutes les règles, savoir qu'est-ce qu'on fait si le bateau coule, par exemple.
Et on fait quoi si le bateau coule?
Alors déjà, il y a un truc, c'est que tu restes sur ton bateau jusqu'au dernier moment. Tu déclenches ton canot de survie, vraiment, même si ton bateau est vraiment sous l'eau et il te reste 2 cm, tu restes, parce qu'en fait, tu es toujours plus visible sur un bateau qui coule que sur
un canot.
Canot de survie. Et surtout, sur ton canot de survie, en fait, tu vas pas survivre 100 ans, alors que tu es quand même plus en sécurité sur un bateau qui coule. Donc, il faut vraiment attendre le dernier moment avant de déclencher ton canot de survie. On avait des grag bags, donc on avait toujours un sac à dispo pendant les traversées dans lequel on avait portable, carte bleue, passeport. Enfin, moi, j'avais du lait pour Bianca, j'avais des fruits secs, quelques vêtements, un peu de bouffe, de l'eau.
T'appelles ça comment, ce sac?
Un grag bag. Donc, c'est un sac à dos. En gros, si le bateau coule et tu dois en 2 secondes à déclencher le canot de survie, tu prends ton sac à dos avec le minimum, parce que si t'es amené à rester 3 jours dans ton truc de survie, Et bah voilà. Et ça, c'est des trucs vraiment qu'on a appris en formation.
D'accord.
Indispensable. Ça, c'est
vraiment. Mais t'as le droit de traverser l'Atlantique si t'as pas fait cette formation. N'importe qui peut partir, en fait.
Il y a des gens qui font aucune formation qui traversent l'Atlantique.
Tu l'aurais pas fait si t'avais pas d'enfant ? La formation ?
J'en sais rien, mais avec des enfants, je me suis même pas posé la question. Ouais. Avec des enfants, la question, c'est. Enfin, je veux dire, il y a un moment, là, pour le coup, ça me concernait pas que moi.
Oui, c'est pour pas les mettre en danger, quoi.
Ouais, ouais. Après, c'est vrai que c'est des formations qui ont quand même un coût et sur la mer, il y a de tout, quoi. Sur la mer, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche et qui n'ont pas du tout d'argent pour.
Et comment tu fais alors pour les enfants qui ne savent pas nager ? Enfin, ou même pour ceux qui savent nager quand tu vis sur un bateau ?
Ah, bah alors moi, je leur ai assez rapidement appris à nager. Mais après, il y a un truc, quand ils sont trop petits, ils ont du mal à coordonner. Enfin, tu ne peux pas leur apprendre non plus trop petits. Sinon, moi, elles avaient, pendant les traversées, si on allait à l'avant du bateau, il y a des règles. Hein, elles mettaient le gilet de sauvetage. J'ai sécurisé complètement mon bateau. J'avais des filets de sécurité. Et j'avais complètement fermé, en fait, sur un kata, à l'avant du bateau, enfin, à l'arrière du bateau, c'est complètement ouvert. Je sais pas si ça vous voit. Moi, j'avais fait faire, sur mesure, des trucs où, en fait, mes filles, elles, on pouvait pas.
Ça leur arrivait sous le menton.
Exactement. J'avais complètement fermé mon bateau, c'était un parc géant.
D'accord.
Donc, j'avais fait faire des trucs sur
mesure. Donc là, tu pouvais être en train de cuisiner, t'as pas peur si les filles sont dehors et tout, t'as jamais eu peur?
Non, j'ai jamais eu peur. Et puis, elles ont jamais été à l'avant du bateau en traversée, sans moi, jamais.
D'accord.
Et puis, si vraiment il y avait une manœuvre à faire, un moment un peu chaud, Bianca, je la mettais dans son lit
parapluie. Bianca, c'est ta plus petite.
Ouais, Bianca qui a 2 ans. J'avais un lit parapluie au bout de mon lit. Et je mettais Bianca dans son lit parapluie. Comme ça, je savais qu'elle pouvait pas sortir, même si elle hurlait. Et les jumelles, je pouvais les enfermer à l'intérieur du bateau.
Si t'as un moment un peu dur, quoi.
Bah, si j'ai un moment où Mathieu me dit vite, vite, faut affaler la grand-voile, faut machin, dépêche-toi, et que je peux pas surveiller les enfants.
Sinon, tu les surveilles non-stop ? T'as l'impression que tu les as surveillés non-stop pendant
un
an ? Non,
parce qu'en fait, c'est quand même pas très grand, un bateau. Donc en fait, quand je fais ma cuisine, je les ai en visu, mes enfants, parce que c'est tout petit devant. Et au final, alors déjà, on n'est pas tout le temps en traversée. Non, j'ai pas du tout eu ce sentiment d'être tout le temps en panique. Bianca, c'est jamais arrivé que je la retrouve dans un endroit. Elle a jamais été même trop près du bord, toute seule, jamais. Elle était toujours, en fait, avec nous.
Et la promiscuité avec tes enfants pendant un an ?
Ah ben, il y avait clairement des moments où j'ai envie de les jeter à l'eau.
Parce qu'on a tous vécu le Covid. On sait qu'on les adore. Et tu vois, on a interviewé des gens qui avaient fait le tour du monde et tout, qui nous ont dit, c'est vrai que ce sujet-là, on est trop contents de le faire pour passer du temps avec nos enfants. Mais c'est beaucoup aussi, quoi.
Bien sûr. Il y avait des moments où j'avais envie de les jeter dans l'eau. Hein. On va pas se mentir. Alors déjà, j'avais un groupe WhatsApp de copines de bateau. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on est très connectés en mer. En fait,
d'accord.
On n'est jamais seuls. Et on a été toujours avec une dizaine de bateaux autour de nous. Et on s'est fait beaucoup de copains bateaux. Et j'avais un groupe WhatsApp avec Girls Boat. Et en fait, sur ce groupe WhatsApp, nous n'avions pas le droit de nous partager ni recettes de cuisine, ni meilleurs détachants. Mais on avait le droit de cracher sur nos maris qu'on ne pouvait plus supporter, nos enfants qu'on a envie de jeter à l'eau, et notre bateau qu'on ne pouvait plus supporter à un moment. Parce qu'il y a quand même des moments en bateau de solitude intense. Mais après, évidemment, il y a des moments très durs, mais il y a des moments tellement extraordinaires. Les couchers de soleil, quand t'es au milieu de l'eau avec tes 3 enfants et ton mari, et que tu fais un quart de nuit, que t'as les étoiles et que t'as tes enfants dans les bras, et que tu ne vois rien d'autre que l'immensité de l'océan, que tu captes pas, que t'as pas de réseau. Bah, moi, j'ai jamais vécu des moments aussi extraordinaires. Donc, j'étais tellement heureuse de vivre ça avec mes enfants et mon mari, que évidemment qu'il y a des moments durs, mais il y a tellement de moments extraordinaires que ça vaut le coup.
Jamais.
Bah, bien ça sûr. Vaut le coup.
Évidemment. Alors, t'as ton bateau, t'as les formations. Comment tu dessines ton périple ? Tout le monde fait un peu la même chose quand tu traverses l'Atlantique ou il faut vraiment se poser sur une carte du monde et faire ton trip ?
Alors, quand tu fais une traversée d'un an, t'es quand même assez limité. Donc, tout le monde fait à peu près la même boucle, à savoir, soit les gens partent du sud, soit de Bretagne.
D'accord.
Ensuite, t'arrives au Canada. Enfin, nous, tu veux que je te dise dire mon périple, mais qui est à peu près, si tu pars du sud, celui que tout le monde fait. On a été en Corse. Ensuite, on a fait les Baléares. Enfin, on a fait Ibiza, Majorque, Minorque. Ensuite, t'arrives au Cap-Vert. Et ensuite, tu visites, tu passes pas mal de temps au Cap-Vert. Et ensuite, tu traverses l'Atlantique du Cap-Vert, de Mindelo au Cap-Vert. Et là, t'as 15 jours de traversée.
15 jours de traversée?
La traversée de l'Atlantique, c'est 15 jours minimum.
Et t'arrives où ?
Tu peux arriver en Guadeloupe ou en Martinique ou à Grenade, mais nous, on est arrivés en Martinique. Et ensuite, t'as tout l'arc antillais. Nous, on a fait d'un côté donc Sainte-Lucie, les Grenadines, Saint-Vincent, et tu vas jusqu'à Grenade. Je ne sais pas si tu visais l'île avant le Venezuela. Et ensuite, tu fais de l'autre côté la Dominique, la Guadeloupe, les Saintes-Marie-Galante, Antigua, Barbuda, Saint-Barth, Saint-Martin, les îles Vierges britanniques. Et après, il y en a qui vont jusqu'... Alors nous, on s'est arrêté là parce que nous, on avait décidé de vendre le bateau aux Antilles et pas de refaire le, de pas faire le retour.
D'accord.
Mais
y a,
la plupart des gens font la boucle en entier.
D'accord.
Et dans ce cas, ils vont jusqu'aux Bahamas et des Bahamas.
Tu repars.
Exactement. En fait, après, tu vas jusqu'aux Açores. Je sais pas si vous voyez les Açores, c'est les petites îles. Et ensuite, des Açores, tu retournes en France. Et là, on a d'ailleurs des copains qui sont en train d'arriver. Mais en revanche, la traversée retour est beaucoup plus sportive que la traversée aller. Parce qu'en fait, l'aller, t'es poussée par les alizés. Et du coup, c'est une traversée qui est assez, en termes de conditions météo, assez easy. Surtout quand t'es en cata. T'as pas du tout, quand t'es en monocoque, tu peux faire beaucoup plus de choses à la voile qu'en cata. En cata, t'es beaucoup plus limité. Et la traversée retour en cata, c'est un cauchemar parce que t'as pas le vent dans le bon sens. Alors qu'en monocoque, c'est très sport, mais c'est beaucoup plus jouable. Donc en général, les gens en cata ne font pas le retour. Mais il y en a qui le font, mais c'est rare. Et en monocoque, en général...
Il y a bien quelqu'un qui ramène ses bateaux en France?
Alors non,
c'est,
le vend.
Pas, c'est peut-être des skippers, elles sont là qui... Oui, toi, tu le vends.
Alors,
mais pour que des gens puissent partir de France, à un moment, il faut qu'ils...
Et ben, qu'ils mais la plupart des... Enfin, nous, tous les gens qu'on connaît qui étaient en monocoque, ils ont fait le retour.
Oui, en monocoque, ouais, tu dis, ils ont fait le retour.
Et en cata, bah, si, il y en a qui le font, mais c'est chaud.
Ouais.
Alors parfois, t'as la maman et les enfants qui repartent en avion.
D'accord.
Et le... Alors, quoi que je veux pas... Il y a aussi des capitaines femmes, hein, je tiens à le préciser, j'en ai rencontré. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais souvent, bah, le capitaine, avec des coéquipiers, fait le retour. Et...
Oui, et puis on n'impose pas aux enfants.
D'ailleurs,
retour,
voilà, moi, j'ai trois copines qui sont rentrées en avion avec les enfants. Et leur mari ont fait le retour avec... Mais bon, c'est un mois, quoi. Parce qu'après, tu t'arrêtes aux Açores, c'est... Et c'est très sport. Là, on est des gens qu'on connaît qui ont perdu leur bateau en plein milieu de l'océan, qui ont été rattrapés par un cargo. Donc, c'est très, très sport, le retour.
Donc, t'as ton bateau, t'as ton périple, t'as tes formations. Et comment on fait les valises là pour partir un an sur un bateau? Parce qu'aussi, on est limité en termes de place, j'imagine.
Ouais. Bah, moi, j'ai vachement échangé avec des mamans qui l'avaient fait pour savoir un peu. Après, on est limité, mais c'est pas comme quand on part en sac à dos. En fait, on est dans une maison flottante, donc il y a quand même un peu de place. Et on savait qu'on allait être au chaud tout le temps. Donc déjà, donc les enfants, j'avais pris 3 shorts, 2 robes, une paire de sandales, une paire de chaussures qui va dans l'eau, plein de maillots.
Vous avez vécu en maillot de bain pendant un an.
Mon mari, il avait 2 shorts, 5 t-shirts, une chemise peut-être. Et moi, j'avais 3 robes, 3 shorts et peut-être 20 maillots.
Et t'as pris des jeux un peu pour les filles, des livres et tout ça?
Ouais, alors par contre, ouais, beaucoup de livres. Moi, j'avais une liseuse, heureusement, parce qu'effectivement, on lit énormément. Et j'avais pris des jeux de société, mais j'avais pris beaucoup trop de jeux de société parce qu'en fait, on passe notre vie dans l'eau, quoi.
Ouais.
On passe notre vie dans l'eau, on fait beaucoup de balades, on fait beaucoup de visites, on fait beaucoup de plages. Enfin, les enfants sont tout le temps à la plage, les uns avec les autres, sur d'autres bateaux. Et j'avais pris beaucoup d'activités manuelles, des coloriages et machin, mais j'avais pris beaucoup trop.
On prend toujours beaucoup trop.
Toujours
et alors, vous êtes partis d'où?
On est partis de Toulon.
Ok. Et vous êtes partis quand? Donc en juillet, tu dis l'année dernière?
On est partis mi-juillet.
Ok. Alors raconte comment ça se passe le jour où on part.
On est surexcités. Nous, on était complètement surexcités. On s'est dit, mais c'est quand même dingue, on part un an en vacances. En plus, on sait qu'on va faire un an au chaud. On est parti mi-juillet. Tout le mois d'août, on était en Corse. Donc en plus, on a vu un peu la famille, des amis, etc. Donc on n'était pas encore trop partis. Et après, petit à petit, on fait les îles les unes après les autres. Et après, ce qui est pas mal dans ce tour-là, c'est que la première traversée pour aller en Corse, c'était 24 heures. Alors moi, c'était la première fois que je faisais une nuit, etc. Donc pour moi, j'avais l'impression que c'était absolument incroyable de faire une nuit en mer, quoi. Bon, maintenant, ça me semble complètement... Et en fait, après, pour faire des Canaries... Après, à un moment, on était à Gibraltar. Donc c'est la première traversée un peu longue. Gibraltar, les Canaries, c'est 4 jours. Donc déjà, c'est une première grande traversée.
Donc là, vous êtes que tous les 5 sur cette traversée.
Non, alors là, c'est là où le voyage aurait pu prendre un autre tournant pour nous, aurait pu s'arrêter. Parce qu'en fait, on avait 2 ou 3 coéquipiers qui devaient venir, des copains de mon mari. Et en fait, on en a 2 qui nous ont lâchés. Enfin, on en avait pris 3 en se disant, s'il y en a un qui lâche, comme ça, on en aura 2. En fait, on en a 2 qui n'ont pas pu venir, parce que boulot, etc. Et du coup, on n'avait qu'1 coéquipier. Et en fait, c'était la première grande traversée. Et en partant de Gibraltar pour aller à Canaries, c'est une traversée qui est très difficile parce que les conditions météo sont hyper sport. Il y a énormément de vent, énormément de houle. Et en fait, à Gibraltar, il y a tous les énormes cargos et il y a un système de rails. Là, en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a les orques qui attaquent des bateaux à voile.
Mais non.
Il y a un énorme problème avec les orques.
Mais
au
comment
niveau
ça,
de
ils attaquent les bateaux à voile?
Eh ben, en fait, on ne sait pas encore. Il y a plein d'études sur le sujet. On ne sait pas s'ils jouent ou s'ils s'attaquent. Mais alors, c'est que les bateaux à voile au safran. Et en fait, ils jouent et ça c'est tellement fort qu'en fait, ils cassent les safrans. Et donc, tous les jours, il y a des bateaux qui coulent à ce niveau-là. Alors, il y a les secours qui arrivent à les récupérer, que ça. Mais il y a des accidents extrêmement graves.
Je ne l'ai jamais entendu. Je vais enquêter.
Ouais. Et ben, près du Portugal et Gibraltar. Et en ce moment, c'est catastrophique.
D'accord.
D'ailleurs, on a plein de bateaux qu'on connaît qui ont pété leur bateau, quoi. Et là, après, tu pètes ton bateau.
Là, c'est fini, quoi. Ton voyage, tu ouais, rentres.
Exactement.
Quoi.
Et voilà, tu...
Il y en a donc là, t'es avant cette traversée, t'as un coéquipier sur quatre.
Voilà, et puis c'était nous, c'était notre première grande traversée. Donc pour mon mari aussi, on a quand même les trois enfants.
Et là, on est quoi, septembre, octobre?
Non, là, on était au mois, ouais, octobre, octobre, novembre. Je sais plus.
D'accord.
Trop. Et le système de rail, les cargos, mais non, quand t'as ces énormes cargos, mais c'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu ça, mais de si près. Mais je disais, Mathieu, mais c'est pas possible, ils peuvent pas nous
t'es
voir.
T'es si petit par rapport
t'es
à eux,
si
en
petit,
plus.
Et puis la nuit, il faut du coup limite être deux pour checker, parce que te vois pas. Donc évidemment, on a un système d'AIS, hein, c'est-à-dire que sur la mer, tu vois sur un écran tous les bateaux. Enfin, tu vois, évidemment, il y a plein de, il y a des bateaux qui n'ont pas d'AIS, mais nous, on avait évidemment un AIS. Et du coup, c'est 4 jours où mon mari n'a pas dormi pendant 4 jours. Et comme c'était le début, on n'avait pas encore trop fixé de règles, genre, toi, tu ne gères que les enfants, toi, tu gères que machin. On était un peu... les filles étaient là, papa, papa, tu viens me dire bonne nuit,
oui,
papa,
alors
machin.
Qu'en fait, papa, il faut le lâcher pendant 4 jours.
Ouais,
quoi.
Et moi, ouais. Je faisais au mieux. Donc, je gérais les enfants, je gérais les repas, j'aidais un peu Mathieu. Mais voilà, et en fait, je n'ai pas trop réalisé, mais mon mari n'a pas fermé l'œil pendant 4 jours. Et en fait, on est arrivés. Il a fait un genre de burn-out, quoi. Enfin, il n'arrêtait pas de pleurer. Il a perdu en 4 jours peut-être 6 kilos, alors qu'il mangeait. Hein. Mais en fait, de stress.
Et en puis fait, de responsabilité, quand même. Il était responsable de vous, quoi.
Exactement. Et moi, je ne l'avais pas trop en tête. Et on est arrivé. Et clairement,
mais c'était dur, sinon, la traversée. Je veux dire, ça agitait.
Ouais,
t'as
sport.
Eu peur ouais.
Bah alors, moi, je me suis toujours sentie en sécurité avec Mathieu. Enfin, j'avais confiance en... Parce qu'après, je reviendrai. On avait déjà eu un épisode assez chaud où Mathieu avait super bien géré. Donc, moi, j'étais en confiance avec mon bateau et Mathieu. Je savais qu'il prendrait jamais de risque. D'ailleurs, il a pas dormi de la nuit. Il prenait toujours des ris. Enfin, c'est-à-dire, tu réduis la voilure pour faire en sorte d'aller beaucoup moins vite, pour machin. Hyper sérieux. Donc, moi, je sentais quand même, il prenait toutes les mesures nécessaires. Je me suis pas du tout sentie en danger. Mais en fait, lui a tout encaissé, a fait en sorte que... Et puis moi, j'étais avec les enfants, la bouffe, le truc. Donc en fait, j'avais pas non plus tellement le temps de m'allonger en me disant « Ouh là là, c'est un peu... » Non, ouais. Moi, j'ai pas arrêté une seconde. Et quand on est arrivé, mon mari a fondu en larmes. Et là, clairement, pendant 3 jours, il était déjà, il fallait absolument aller aux portes, parce qu'il avait... il était pas du tout en confiance. Et il m'a dit « Mais en fait, je peux plus. On arrête.
Tu arriverais pas, quoi.
Non, j'ai pas confiance en moi. » J'arriverai jamais à traverser l'Atlantique, j'arriverai jamais. Et là, genre, bon, ben moi, je suis en mode, bon, alors, moi, je pensais à toutes les questions techniques. Genre, bon, alors, on n'a plus d'école, on a loué l'appart, là, on a quand même le bateau. En plus, on avait toute la famille qui nous retrouvait aux Antilles pour l'arrivée de la traversée. On avait mon beau-père qui faisait, et mon frère qui faisait la traversée de l'Atlantique avec nous.
D'accord.
Qui en rêvait depuis 1 an, qui n'arrêtait pas de nous envoyer un message. C'était mais, le rêve de notre vie, la traversée de l'Atlantique. Moi, je suis quand même, on va en décevoir plus d'un. Enfin, hyper délicat. Et au final, là où ça a été... Évidemment, le temps fait très bien les choses, mais là où ça a été super, c'est que... Bon, en plus, moi, j'étais là, j'avais mes 3 enfants à gérer. Mon mari qui...
Qui n'était pas bien, quoi.
Qui était allongé, en mode... faisait une petite dépression. Mmh. Je fais quoi? Je me tourne vers qui? J'osais pas le dire à mes parents, ni mes beaux-parents, parce que je voulais pas inquiéter tout le monde. Et je voulais pas dire à tout le monde, ça y est, on arrête. Alors que pour moi, je me disais, mais non, pas possible.
C'est qu'un petit coup de mou.
Et puis, au bout d'une semaine, je me disais, ah non, peut-être qu'en fait, ça va peut-être s'arrêter.
Mais en même temps, c'est assez rassurant, je me dis qu'il fasse ça, parce qu'après, il a dû repartir, tu vas nous dire, mais de plus belle, quoi, finalement, de se remettre en question et de réaliser de quoi t'es capable, qu'en fait, il fallait des règles, etc. Ça vous a permis de faire 1 an de voyage peut-être plus smooth, quoi.
Ouais, et du coup, alors le médecin avec qui on avait fait notre formation, bah moi je me suis dit, ah, vas-y, on va l'appeler, parce que là, qui j'appelle, mon généraliste, je pense pas qu'il va nous aider. Et en fait, ce médecin est génial, il fait vraiment des formations juste pour les marins, donc il fait les coureurs et aussi les plaisanciers. Et lui, alors déjà, il m'a dit, alors là, je vous arrête tout de suite, ce qu'est en train de faire Mathieu, c'est très courant. C'est le truc classique des marins, moi, à chaque course, il y a plein de coureurs qui font exactement, ça s'appelle un petit burn-out. Quand tu ne dors pas, tu as la responsabilité d'un bateau, tu as la responsabilité de 3 enfants. C'est un truc hyper classique. Alors déjà, on s'est dit...
Ça te fait du bien.
Déjà, OK, c'est pas le truc. Il a dit, alors, il faut du temps, il faut se reposer, il faut reprendre confiance, etc. Mais il a dit, alors déjà, grave erreur. Déjà, en fait, Mathieu, vous êtes le capitaine du bateau. En aucun cas, vous gérez les enfants pendant les traversées. C'est-à-dire que là, il y a un truc, c'est... Vous pouvez pas être papa et capitaine. C'est pas gérable. Donc, il me dit, voilà, les gens en mer, ils n'ont pas d'enfants à gérer, en fait. Ils gèrent leur bateau, leur machin. Vous vous rendez compte, vous avez 3 ans, c'est pas possible. Donc, déjà, avec Mathieu, on s'est dit, bon, bah, OK, déjà, prochain truc, les enfants, les filles, si elles sont là, papa, non. Papa, c'est le capitaine du bateau, là. Et du coup, on a acté ce truc-là. Et après, on a appelé aussi un organisme qui s'appelle le CROSS. C'est un peu comme l'hôpital public pour les gens de la mer. Et en fait, tu peux les appeler à tout moment. Et c'est eux que tu appelles si en plein milieu de la mer, tu t'ouvres ou tu as quelqu'un qui a une maladie grave ou un autre et qui va te dire exactement quoi faire. Ils ont tous nos dossiers médicaux. Ils ont tout et ils nous guident par téléphone. Et en fait, on les a appelés, on leur a dit on sait pas quoi, et direct, oh ouais, vous inquiétez pas, il y a une psy qui va vous appeler, spécialisée de la mer, machin, donc truc hyper rodé. Et genre, une heure après, il y avait une psy qui nous appelait, qui a appelé Mathieu, qui a passé une heure au téléphone avec lui pendant 3 jours et qui était hyper habituée. Donc en fait, truc assez classique. Et puis après, le temps a fait son chemin. On a eu, je sais pas si c'est le hasard, mais à ce moment-là, on a eu une merde sur notre moteur. On a dû sortir le bateau de l'eau. Donc ça, c'est quand même dingue. Mathieu ne peut plus supporter le bateau. On doit sortir. Vraiment, pendant une semaine, on a vécu le bateau sur le chantier, sorti de l'eau, quoi.
Et là, tu dors sur le bateau ou tu vas à l'hôtel ?
Cauchemar. J'aurais préféré être à l'hôtel. Mais le problème, c'est qu'on était, aux Canaries. Tous les hôtels coûtaient une blinde. C'était pas pris en charge par l'assurance. Puis moi, avec mes 3 enfants, tout déménagé. Ouais. Donc on dormait sur le chantier, donc t'as plus de toilettes, tu peux pas utiliser l'eau, avec la poussette yo-yo, le machin, t'as une échelle qui est toute droite, le truc hyper dangereux. Alors là pour le coup c'est dangereux parce que là les enfants s'ils tombent c'est sur le bitume quoi. Donc on a passé 3 jours là-dessus. Bon, après la journée on n'y était pas, mais l'enfer. Mais au final c'est passé très vite, ça a été très bien. Et surtout je me suis dit psychologiquement d'être
c'était
à terre.
C'était pas mal.
Je me suis dit mais ça tombe à pic, je me suis dit, quand même dingue pile au moment où Mathieu n'est plus à l'aise sur l'eau, etc. On nous dit, vous devez sortir le bateau de l'eau, il y a un truc coincé dans le moteur. Donc je me suis dit, la vie est bien faite. Et au final, le temps a bien fait les choses. On est reparti smooth. Et en revanche...
Donc après, il était prêt, là, il t'a dit, on va le faire.
Petit à petit, il m'a dit, on retente, on machin. Et en fait, il a repris confiance dans son bateau, il a repris confiance, il a repris un peu de poids. Et après, par contre, l'autre traversée, on s'est staffé, c'est-à-dire qu'il y avait une autre traversée donc qui était Canary-Cap-Vert, qui était une traversée qui dure quand même 6 jours et qui est moins sport que la première, mais qui est quand même, tout dépend des conditions. Et en fait, là, il y avait mes parents qui venaient avec moi. C'était prévu depuis le début. Mais mes parents, c'est pas des grands marins. Donc maman, je savais qu'elle allait m'aider à fond sur l'aspect enfant, bouffe, etc. Mon père allait pouvoir faire des quarts avec Mathieu. Moi, je faisais des quarts aussi. Et du coup, on a pris le cousin de Mathieu en plus, qui est un marin.
Ça fait beaucoup, là, dans tes 3 cabines, non ?
Et ben en fait non, ça allait. J'avais mes parents dans une cabine. J'avais mis alors faut savoir qu'en traversée tu dors pas très bien.
D'accord.
En traversée
donc, tu dors là où tu peux quoi. De toute façon tu vas te mettre.
En traversée que tu dors dans ta chambre ou dans le carré ou sur le canapé. Enfin de toute façon tu dors très très mal. Limite tu dors mieux en fait dans le carré que dans
d'accord.
les parce qu'en fait avec les coques ça tape contre donc les enfants ils dorment partout incroyable. Enfin il peut y avoir le moteur le machin. Mais moi j'étais mais on est en train de leur abîmer vachement les oreilles tellement il y a de bruit. Je disais ah, Mathieu faut peut-être leur mettre des boules casse. En fait les enfants ils dorment partout. Donc j'avais une cabine où j'avais mis mes parents, j'avais une cabine, j'avais mis mon cousin, mon mari dormait dans le carré, et moi j'avais une jumelle, il y avait une jumelle dans le carré, parce que le carré, voilà, j'avais 2 petits lits et j'avais Bianca dans son.
Oui, donc ça se fait quoi.
On campe un peu, mais de toute façon, en traversée, le confort n'est pas du tout là, donc au final, ça change rien.
Et quand tu dis la traversée dure 6 jours, tu dois décider d'une date, ça dépend de la météo et tout, ou bien un matin tu te réveilles et tu dis allez, aujourd'hui on traverse.
Non, tu dépends de la météo.
D'accord.
Tu dépends de la météo, donc il faut avoir des coéquipiers assez flex parce que faut que tu leur dises en fait, tu prends ton billet genre 3-4 jours avant ou alors il faut que tu sois prêt à le changer. Et puis si tu arrives, on peut dire non, en fait, il faut partir dans une semaine.
Okay.
Donc c'est pour ça que c'est hyper galère de trouver des coéquipiers parce qu'il faut des gens, même si c'est une traversée d'une semaine, qui soient prêts potentiellement à poser 3 semaines.
D'accord.
Du coup, on a pris le cousin de Mathieu, donc qui était trop content et qui avait déjà navigué avec Mathieu, et ça a tout changé. Parce que du coup, ils étaient vraiment 2 vrais marins. Et puis moi, du coup, là, j'étais rodée, j'avais géré les enfants à fond, maman m'a vachement aidée. Et puis, on a eu des conditions de rêve.
Donc là, t'arrives, vous êtes en forme. Vous êtes prêts pour la grande traversée.
On a eu des conditions de rêve. La traversée s'est hyper bien passée. Mes parents étaient là, mais quel rêve. Ma mère voulait plus que ça s'arrête. Et c'est génial. Et ça nous a redonné confiance, évidemment, pour la transatlantique.
Et alors, la transatlantique, raconte-nous. Alors, comment. Donc, ça dure 15 jours.
Alors, déjà, avant la transat, donc une semaine donc de traversée. Ensuite, on est arrivé au Cap-Vert. Je voulais quand même en parler parce que le Cap-Vert, c'est quand même. Alors, les Français, ils vont pas mal, mais il y a beaucoup d'étrangers qui ne vont pas au Cap-Vert parce que, soi-disant, le Cap-Vert, ça craint, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas machin. Alors que le Cap-Vert, c'est le plus bel endroit qu'on a vu en bateau. Les Cap-Verdiens sont un peuple, ils n'ont rien. Ils sont joyeux, ils ont une joie de vivre incroyable, ils sont généreux, il y a de la musique partout. Dans n'importe quel resto, t'as un concert, c'est incroyable. Et surtout, quand on est arrivé Bah, Mindelo, c'est la ville, c'est là où tu pars pour traverser l'Atlantique. Et en fait, il y a un truc, quand tu arrives dans ce port-là, tu te retrouves avec que des bateaux qui vont traverser l'Atlantique, donc que des gens, entre guillemets, un peu barrés. Parce que franchement, tu te dis, mais c'est quand même un peu fou de faire ça. Donc, il y a une atmosphère, un truc, mais unique au monde, où tu te retrouves sur le ponton, où tout le monde attend la fenêtre météo, tout le monde attend ses coéquipiers. Au Cap-Vert, il n'y a rien, donc on ne peut pas se ravitailler. On a tous fait nos courses aux Canaries, donc on a, et du coup, il y a une entraide de fou parce qu'on est tous un peu en galère. Mais merde, j'ai pas ça, j'ai plus ça. Où t'as trouvé tes fruits?
Parce que là, il faut que tu sois ravitaillé pour 15 jours de bouffe pour tout le monde, quoi.
Ouais, ou même, faut faire un mois parce que tu sais jamais ce qui peut se passer au milieu de l'océan. Donc c'est 15 jours minimum. Et si t'as une merde sur ton bateau ou autre, faut que t'aies au moins 3 semaines, un mois
d'autonomie.
De bouffe, ouais. De bouffe, d'eau. Et puis, et tout est galère au Cap-Vert. Tout est galère. Donc, nous, le jour de partir, la pompe à essence, elle était pétée. La bouffe, c'est hyper galère pour t'approvisionner, machin. Et du coup, il y a une entraide entre marins.
Donc là, t'as rencontré plein de familles qui allaient faire la même chose que toi?
Au Cap-Vert, bah, c'est là où on a rencontré franchement toutes les familles avec qui on s'est liés d'amitié, à la vie, à la mort, je pense, et avec qui on a, qu'on a retrouvé après partout dans les îles, etc. Parce qu'il y a un truc de fou, en plus, avec les enfants. Les enfants, ils courent sur les pontons, ils vont de bateau en bateau.
Bah, ils créent beaucoup de liens, les enfants, en fait.
Ouais, et puis même, on est tous un peu en galère, donc il y a vraiment une... Et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en mer, t'as aussi bien des gens qui ont des bateaux à 8000 euros et qui n'ont pas un rond comme ces deux petites étudiantes, et des gens qui sont extrêmement riches, qui ont des bateaux de fous. Et en fait, tout le monde est mélangé. On est tous sur le petit bar de la marina à trinquer ensemble et à se rendre des services et à partager tous les problèmes qu'on a. Et il y a une entraide exceptionnelle.
Donc, tu as passé un super moment.
C'était un des moments de l'aventure les plus marquants.
Et là, comment tu décides le jour où tu vas partir alors?
Fenêtre météo.
Donc, tout le monde part le même matin, alors?
Non, parce qu'il y en a qui ont leurs contraintes, des coéquipiers, il y a l'histoire des coéquipiers.
D'accord.
Donc, il y en a qui vont partir en sachant qu'ils ne vont pas avoir de vent pendant une semaine. Donc, ils disent, c'est pas grave, on va faire un peu de moteur. Ou il y en a très puristes, non, on ne fait pas de moteur, c'est pas grave, on mettra un mois. Ou voilà, chacun
d'accord,
a
donc
ses...
tout le monde part pas le tel pas matin à 8h.
En revanche, il y a une période de l'année, vers décembre, janvier, c'est la période, donc c'est là où tout le monde fait la traversée de l'Atlantique, c'est entre décembre et janvier.
D'accord. Pourquoi?
Parce que c'est là où, en fait, t'es poussé par les alizés, c'est là où les vents sont dans le bon sens et c'est les meilleures conditions météo pour traverser l'Atlantique.
Ok.
Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve tous au Cap-Vert à ce moment-là. Et là, nous, on a attendu la bonne fenêtre. Alors, c'était hyper compliqué parce qu'on avait mon beau-père et mon frère qui arrivaient à telle date. Mon frère, qui a des enfants, qui bossent, etc., avait posé pile le temps de vacances et la fenêtre météo n'était pas là. Du coup, Mathieu devait prendre la décision. Soit, en fait, qu'on abandonne nos coéquipiers, qu'on en trouve d'autres parce qu'il fallait potentiellement partir 2 semaines après. Mon frère,
mais t'es obligé d'avoir des coéquipiers?
Pas tout le monde en a, mais nous, avec 3 enfants à bord, c'était impossible, surtout compte tenu de l'expérience qu'on avait eue. Nous, on n'aurait jamais traversé sans coéquipiers. Et puis nous, on avait trop de chance, parce que souvent, les gens trouvent des coéquipiers sur la bourse aux équipiers, donc c'est des gens que tu connais pas forcément, parce qu'on n'a pas tous des marins dans la famille.
Bien sûr.
Moi, j'avais trop de chance. Et puis surtout, vivre en bateau, c'est très particulier de vivre avec quelqu'un en espace restreint. Même si t'as des marins dans la famille, t'as pas forcément envie d'embarquer tout le monde sur ton bateau. Et moi, nous, on avait mon beau-père, avec qui je m'entends hyper bien, et j'avais déjà fait du bateau avec lui, et c'était le rêve de sa vie de faire la Transat. Et mon frère, dont je suis hyper proche, qui a un marin, qui a 7 enfants, qui est genre...
Combien?
Il y a 7. Donc, c'est un non-sujet.
OK, respect.
Parce qu'il faut aussi quelqu'un qui supporte les enfants. Parce que moi, j'avais quand même 3 enfants.
Quand on a 7, okay.
Moi, j'avais le setup parfait. Que j'avais mon frère marin, hyper facile à vivre, qui a 7 enfants. Donc, en fait, mes 3, c'était un non-sujet. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et donc, un matin, c'était la fenêtre. On a fait un peu des... Et on est parti. On est parti, ouais.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu pars alors?
C'était fou parce qu'en fait déjà on avait tous nos copains de bateau qui étaient venus nous dire au revoir et du coup qui est corne de buse machin et là tu pars et là tu te dis tu pleures, tu te dis mais t'imagines, t'imagines on va traverser un océan et là je voyais ma petite Bianca et c'était fou. Fou. Après, évidemment, il y a un peu de stress aussi parce que tu sais pas ce qui peut se passer au milieu de l'océan. Alors, même si on dit, mais attends, c'est complètement fou de partir avec des enfants. Je pense qu'il y a plus d'accidents de vélo en Paris avec tes enfants sur ton porte-bagages que d'accidents au milieu de l'Atlantique, mais il y en a. Parce que, alors, il y a les conditions météo. Alors, tu as des trucs qui peuvent casser sur ton bateau, mais nous, on avait quand même tout baqué. On avait un bateau qui était hyper équipé, donc...
T'avais pas peur pour le...
Alors, le truc qui peut être grave, c'est si ton pilote automatique pète, parce qu'en fait, t'as un pilote automatique, ce qui fait que tu barres pas jour et nuit. Si ton pilote automatique pète, ça peut être très compliqué, parce que barrer jour et nuit, c'est très compliqué. Nous, on avait un deuxième pilote auto en sécurité. Et après, ce que tu peux avoir, c'est si tu pètes tes voiles et si tu es obligé de faire au moteur et que tu n'as pas assez d'essence. Alors ça, effectivement, tu ne peux pas avoir de l'essence pour 15 jours en mer. C'est impossible. Donc ça, c'est le truc, mais... Enfin...
T'étais bien préparé pour que ça arrive pas. Enfin, la bonne fenêtre...
Et alors, nous, on avait un bateau qui était complètement autonome, c'est-à-dire qu'on avait un désalinisateur, c'est-à-dire qu'on buvait l'eau de la mer, on se lavait avec l'eau de la mer. On avait des panneaux solaires, donc on était autonome en électricité, etc. Et après, bah, tu as les voiles, donc tu avances grâce à la force du vent. Mais si ton dessal pète, c'est compliqué.
T'as plus rien à boire.
Bah, on avait quand même évidemment des réserves d'eau. Donc, on n'avait pas pour 15 jours de réserve d'eau. Mais on s'est dit, voilà, si ça pète au bout de tant de jours, bah, on
attend
en arrière.
D'accord.
Si ça pète au bout de 5 jours, bah, on avait, je pense, pour une semaine de réserve d'eau. Au cas où.
D'accord. OK.
Ouais, c'est le truc qui peut être grave si ton dessal pète. Mais après, il y a plein de gens qui n'ont pas de dessal sur la mer.
Mais si t'arrive un truc en plein milieu de l'océan au bout d'une semaine, donc t'es vraiment en plein milieu. Justement, ce que tu disais, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'arrache le bras, qui se fait mal et tout. Là, on peut venir te chercher. C'est débile peut-être. Personne. Là, t'es tout seul. On viendra pas te chercher là où t'es. Ok.
Mais même au bout de 2 jours, personne viendra te chercher.
D'accord.
Mais tu fais demi-tour. Mais c'est pour ça qu'on avait vraiment des valises médicales. Voilà, on se disait les trucs qui peuvent. Il y a des trucs assez classiques. Des enfants qui tombent. Tu vois, qui saute une marche qui s'ouvre. On a des copains, c'est arrivé en pleine traversée, ils ont dû recoudre un enfant. Donc, il faut savoir recoudre à vif un enfant avec 3 mètres de houle. Mais on avait, en revanche, 2 valises médicales.
Alors, c'est quand même le seul voyage où pendant, là, tu dis 15 jours, j'imagine, il y a d'autres traversées, t'es vraiment seul.
Ouais.
Parce que même au milieu du désert en Afrique, on peut venir te chercher.
Je sais pas.
Non, mais tu vois, il y a toujours un hélicoptère, il y a toujours moyen quand t'es sur Terre quand même de... Ouais. Là, t'es vraiment seule, quoi.
Là, t'es vraiment seule. Là, t'es vraiment seule. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, être sérieux et surtout avoir... Et voilà, moi, je connais des gens qui n'avaient pas de valise, hein, avec des enfants. Donc, voilà. De toute façon, il y a de tout sur la mer, mais nous, on était quand même très équipés. Et
après, t'es pas senti en danger.
Non, après, le seul truc, c'est qu'effectivement, si t'as une crise cardiaque, t'as quelqu'un... Voilà, mais après, il y a un moment aussi, tu te dis... Mais tu vas pas prendre un lit d'hôpital sur ton bateau. Enfin, tu vois, il y a un moment, sinon tu le fais pas. Il y a pas de,
non,
ça
non,
a
bien
pas
de chance. Et là, quand tu pars, tu perds un peu la notion du temps où tu arrives à coucher tes enfants le soir à 1 heure, à garder un rythme pendant ces 15 jours sur l'eau?
Ben, en fait, tu vis au rythme du lever du soleil et du coucher du soleil.
D'accord.
À fond. Ah oui, t'as été très rythmé. Et ben, les jours sont très rythmés, du coup, par, comme en fait, t'as pas de réseau, donc t'as pas Internet. T'as rien à faire à part lire. Enfin, moi, j'avais quand même beaucoup de choses à faire parce qu'au final, moi, je crois que je me suis fait un peu avoir sur la répartition des tâches parce que moi, je m'occupais de tous les repas. Je ne faisais pas la vaisselle parce que la vaisselle, quand même, on était 1, 2, 3, 4, on était 7 à bord. Donc, au niveau vaisselle, c'est quand même conséquent. Moi, je faisais toute la bouffe, je gérais les enfants toute la journée et je faisais mon quart de nuit de 20h à 23h.
Toute seule?
Ouais. Et en fait, eux faisaient des quarts, mon frère, mon beau-père et Mathieu, toutes les 3 heures, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un à la barre, jour, nuit, ils s'alternaient toutes les 3 heures.
D'accord.
Donc moi, finalement, mon quart était assez cool, parce que moi, je n'avais pas envie de changer de rythme. Moi, au moins, c'était tous les soirs pareil.
Et après, tu vas te coucher à 23
heures. Après, j'allais me coucher, mais moi, j'adorais prendre mon quart à 20 heures. C'est comme je m'occupais des enfants toute la journée et que je faisais les repas, etc. Mais moi, quand j'arrivais...
Ton silence
Et quand je me retrouvais sous les étoiles, machin, j'écoutais beaucoup de podcasts pendant la traversée. J'étais avec mon podcast, machin, j'étais...
Trop bien.
C'est trop bien. Bah après, je suis fatiguée quand même à 23h. T'entends, j'étais là. Faut tenir. Mais j'ai adoré faire les quarts de nuit. Quand j'aurais été vraiment triste de ne pas en faire.
Et vous vous êtes fait des frayeurs pendant cette traversée?
Des frayeurs. Alors, pas des grosses frayeurs. Mais oui, on a eu quelques frayeurs. On a eu une voile qui a... Je ne me rappelle plus trop exactement. Mais on a eu le spi qui s'est déchiré. Donc, c'est un peu chaud parce que c'est une voile qui est quand même très importante pour nous faire avancer. On a notre pilote auto qui a pété, mais après, l'autre pilote auto marchait, mais il était quand même beaucoup moins bien. C'est un truc de rechange. Enfin, on pouvait le mettre câlin. Si, il y a un moment où moi, j'ai vraiment flippé parce qu'en fait, on avait justement notre pilote auto qui était pété. Donc, on avait un pilote auto, mais qui marchait que l'intérieur, donc qui n'était pas relié à la barre. Et du coup, en fait, ça veut dire que si tu veux changer de voile ou faire un changement de direction, il fallait qu'il y en ait un qui soit en bas et un qui tienne la barre. Et moi, j'étais responsable à un moment pendant que le cousin de Mathieu... Non, je sais plus, bon bref, quelqu'un allait changer en bas, de tenir, et en fait il y avait tellement de courant, tel machin, que j'arrivais même pas à tenir le truc. Et en fait, le truc est parti, la voile, il y a une voile qui s'est déchirée, la fameuse, et là, moment de panique, parce que tu sais que tout ça peut aller très vite, et c'est à ce moment-là que tu te dis, en fait, on est rien, quoi. On est rien, et ouais, moi j'ai eu des moments, et surtout des moments où moi j'étais dans la cabine, où parfois t'as un bruit de dingue, t'as l'impression que tu t'es tapé un cargo tellement, en fait, il y a de la houle, il y a des vagues, alors qu'en fait, il y a rien, tu montes, il s'est rien passé. Mais parfois, moi j'avais des moments de stress où j'entendais qu'ils changeaient des voiles, qu'ils faisaient des manips assez violentes, où ça gueulait, machin, putain, nan, nan. Et moi j'étais en bas avec les filles, et je remontais, je regardais ça, tout va bien.
Et les filles, elles étaient ok, elles étaient mignonnes pendant la traversée?
Mais bonheur. Bah, elles dormaient, elles n'ont jamais capté. Je pense qu'elles, elles n'ont même pas capté qu'on était au milieu de l'océan, quoi. Elles, en fait, elles se faisaient petit-déj, après, elles faisaient des coloriages, après, elles faisaient des jeux, elles se baladaient, elles allaient au poste de pilotage, après, il y avait le déjeuner, après, il y avait le temps calme. C'était très rythmé. Après, le temps calme, il y avait le goûter. Après le goûter, je faisais le dîner vers 18-19 heures, on dînait quand même très tôt. Et après, je les couchais à 19h30. Donc, au final, les journées, c'était très rythmé, ouais.
Et alors, non, comment filles... ça se passe quand tu commences à voir la Terre au bout de... Combien de jours, alors, vous avez fait traverser ?
15 jours.
14 quand tu commences jours. À voir la Terre ?
Bah, c'est fou, parce que déjà, un jour, enfin, quelques heures avant ou un jour avant, déjà, tu commences à avoir du réseau. Donc là, c'est un peu flippant, parce que là, je voyais mon frère qui se connecte, qui commence... Oh, ça y est, on a du réseau ! T'as, je sais pas combien de milliards de messages, de machins, de
trucs. T'as la vie qui reprend, quoi.
T'as la vie qui reprend. Alors, nous, on avait quand même un téléphone satellite. Hein. C'est-à-dire que... On avait un téléphone, si justement il y avait un problème médical, on pouvait appeler le CROSS pour nous guider, évidemment, dans un s'il y avait un bras cassé, un truc, pour nous dire exactement quoi faire, quoi prendre dans la
Mais ça, tu t'en sers vraiment qu'en cas d'urgence ou par exemple ton frère il a appelé ses enfants avec
et... Non, tu t'en sers, tu t'en sers en cas d'urgence, parce que déjà ça marche pas très bien, c'est quand même un téléphone satellite, donc c'est vraiment en cas d'urgence et pour les fichiers météo. C'est-à-dire que Mathieu, tous les jours, chargeait les fichiers météo du lendemain pour être sûr que t'as pas une tempête qui arrive, etc.
Ok.
Donc, t'as ça. Et après, donc, ouais, au bout de 14 jours, le réseau, donc, je les voyais allumer. Et moi, je voulais pas allumer mon portable. Ça m'angoissait. Je veux pas.
J'étais bien coupée du monde pendant 15 jours.
En fait, je me suis dit, mais ça m'arrivera plus jamais d'être coupée des réseaux comme ça pendant 15 jours. Donc, moi, je ne voulais pas allumer mon portable. Et là, en plus, ce qui était assez fou, c'est qu'on avait nos deux familles à tous les deux. Donc, moi, j'ai deux frères et une sœur et mes parents qui étaient venus avec tous leurs gamins. Et mon mari, son frère et sa sœur qui étaient venus avec ses parents, qui étaient venus nous accueillir au ponton. Donc, en fait, on avait 20 personnes qui nous attendaient, qui guettaient notre arrivée, etc. Et quand on est arrivé, ils avaient fait une chanson, genre, vous avez travaillé.
Ah, oh, c'est génial.
Et là, c'était fou, quoi. Là, on était en train de pleurer. On s'est dit, mais c'est dingue, quoi.
Ils ont eu peur pour toi, tu penses?
Mes parents, non, parce que déjà, ils avaient fait une traversée avec nous. Pendant 5 jours. Et puis, ma mère est assez aventurière dans, voilà, donc elle est pas, ma belle-mère était très angoissée parce qu'en plus, elle avait son mari. Et, elle avait son mari, bah, son fils et ses 3 petites filles. Sur le bateau. Donc, et puis, elle est assez angoissée de nature. Donc, pour ma belle-mère, c'était assez stressant.
C'est beaucoup de ne pas pouvoir rejoindre les gens pendant 15 jours et de ne pas savoir. C'est long, quoi.
Ouais. Et alors, j'envoyais tous les 2-3 jours un petit... parce qu'avec le fichier satellite, tu ne peux pas trop écrire. Mais j'envoyais 3 lignes.
D'accord.
Genre,
tout va bien.
Exactement. 3 lignes tous les 2-3 jours en disant tout va bien. Et en fait, j'avais fait un blog où, pour la famille, les amis, etc. Et ma nièce publiait sur le blog. D'accord. En disant, voilà, 4e jour de mer, machin, tout va bien, en disant un peu...
C'est la plus grande traversée que tu peux faire, la traversée de l'Atlantique ? La plus
longue ?
Non,
le Pacifique, c'est plus long. Le Pacifique, c'est 1 mois, je crois.
D'accord.
Le Pacifique, je sais... Ouais, je crois que c'est 1 mois, le Pacifique.
Mais, donc là, t'arrives... Et t'es où, tu m'as dit ?
Et là, en Guadeloupe ? Nous, on arrive en Martinique. D'accord. Et tu peux arriver en Guadeloupe.
Donc là, tu poses un pied sur terre, t'es contente quand même ou pas ?
Bah, c'est très étrange. Bah non, mais là, on était surexcités, il était 9h du matin, on a toute la famille qui est montée sur le bateau, on a ouvert le champagne, on était là 9h du matin, allez, tiens, chine et tout. Voilà. Dans ce genre de truc, t'as pas d'heure pour
mais t'es fière de toi quand même quand t'arrives
aussi. Ah, mais j'étais hyper fière de moi, enfin j'étais hyper fière de moi, j'étais hyper heureuse d'avoir... j'arrêtais pas de dire à Mathieu, mais tu te rends compte, on a traversé un océan, c'est quand même fou.
Ouais, c'est
et,
dingue.
Ouais, c'était fou. Et c'est fou de l'avoir fait... en famille, enfin, j'ai adoré le faire. Alors, mes filles, elles n'ont pas du tout capté qu'elles avaient traversé un océan. Mais avec mon mari, on a vraiment capté le truc. Donc, ça
toi, tu sais, quoi.
Ouais.
Et donc, après, là, t'es en décembre, à Noël, quoi, après.
Exactement, on arrive pour Noël. On arrive 2 jours avant Noël.
Et là, il te reste donc 6 mois à kiffer autour des îles.
De l'Arcantillet, exactement. Donc là, c'est beaucoup plus smooth, parce que déjà, une fois que t'as traversé l'Atlantique, en fait, limite, on était là, bon, bah... Enfin, on était tellement surexcités de
ce truc de fou. Le méga défi, c'était ça quand même.
Exactement. Donc après, t'es là, bon, bah, on va faire quoi maintenant ? Et en fait, toutes les îles, on dit les Caraïbes, cocotiers, plages, mais en fait, toutes les îles des Caraïbes, déjà, elles sont quand même hyper différentes. Donc, à chaque fois que tu vas dans une nouvelle île, t'as l'impression d'être dans un nouveau voyage. Et les îles des Caraïbes, c'est pas du tout que la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Barthes. Il y a quand même beaucoup d'îles complètement indépendantes, comme Grenade, comme Barouda, Antigua, etc. Des îles qui sont quand même hyper sauvages, avec des populations locales qui vivent quand même de manière complètement différente de chez nous. C'est quand même des îles aussi très, 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 très pauvres. Et du coup, c'est quand même encore complètement l'aventure. Et au début, on se disait, quand on arrive en Martinique, c'est oh,
bah, bon, bah, c'est, ouais, est-ce c'est... que t'as envie de ça, quoi?
Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, on n'est pas resté très longtemps en Martinique. Évidemment, on est resté parce qu'il y avait la famille qui était là, donc on a passé une semaine. Et après, on a vite bougé. Et nous, justement, on avait plutôt envie d'aller dans des îles où on savait qu'on n'allait pas retourner, des îles accessibles qu'en bateau, loin des sentiers battus et du tourisme de masse, surtout. Et en fait, à chaque fois, on se disait, mais toutes les îles, déjà, elles sont toutes très différentes. Et après, on a...
Et là, t'avais vraiment fait un programme où vous vous êtes baladé un peu au fil de vos envies et de ce qu'on peut te raconter dans un port en disant, en fait, cette île est top, tu devrais aller là-bas.
Déjà, évidemment, il y a évidemment les bruits de ponton. Et puis, on s'était déjà lié d'amitié.
J'adore
avec pas
cette
mal
expression,
de...
les bruits de ponton.
On s'était lié d'amitié avec pas mal de bateaux, de familles. Donc, en fait, on s'est tous retrouvés un peu. On faisait un peu. Et puis après, bon, de toute façon, t'as l'Arcantillée. Donc, t'as les îles, tu vas les unes après les autres. C'est sûr qu'il y a des îles sur lesquelles on s'est moins attardé, tu vois, genre Saint-Barth, bon, c'était moins le délire du voyage. Et après, on a été aux îles Vierges britanniques, juste avant la République dominicaine. Et là, c'est assez fou parce que c'est des petites îles. Et en fait, ça, c'est un endroit où vraiment c'est accessible qu'en bateau. Et là, c'est, tu n'as rien, mais tu n'as même pas de quoi t'approvisionner, quoi. T'as plus de supermarché, t'as rien. Donc, c'est-à-dire que pendant un mois, encore un truc assez aussi aventurier en bateau, c'est que parfois, pendant un mois, bah, t'as plus de bouffe, t'es là, merde, on n'a plus rien, tu bouffes des pâtes, tu pêches. Alors, on a beaucoup pêché. Et tu vas voir le bateau d'à côté pour lui demander s'il n'a pas des œufs, parce que tu n'as plus rien. On se fait des dîners entre bateaux. On a appris à cuisiner des boîtes de conserve, mais de fou. On sous-estime les boîtes de conserve. Maintenant, je dis à mes copines, mais les boîtes de conserve, c'est la folie. Moi, je fais mes tartes à la tomate avec des boîtes à la conserve, mes crumbles avec des boîtes de conserve, etc. Donc, on apprend quand même aussi à être beaucoup
à
plus...
À débrouiller, quoi.
Complètement. Et bah complètement, parce qu'en fait, t'es quand même coupé de la terre. Enfin, il y a quand même des endroits où t'es complètement coupé de la terre.
Et là, tu te dis que tu vas avoir envie de rentrer ou tu as envie de vivre comme ça toute ta vie ?
Non.
Quand tu es sur ces îles-là, paumées
Alors, nous, on savait que c'était un voyage d'un an. Donc, psychologiquement, je pense que tu te prépares.
Tu t'es préparé quoi ?
Nous, on savait que le voyage se terminait. Donc, quand on était aux îles Vierges britanniques, ça avait une saveur très particulière. Parce qu'en fait, on a profité un truc de fou parce qu'on savait que c'était la fin. Tous les copains bateaux avec qui on était repartaient. Après, faisaient la boucle retour. On avait d'autres qui sont partis pour 3-5 ans, donc qui allaient faire le Pacifique, etc. Donc, on savait, on se faisait des soirées, mais pas possible. Et on se disait, mais faut rendre compte. Mais après, on a retourné à Paris ou en ville, où j'avais des copains qui retournaient dans l'open space début juillet et tout. Enfin, au bureau, ça mais faut rendre compte. Enfin, c'est fou. Et là, vraiment, on a tous vraiment savouré très intensément ce moment-là. Donc là, c'était très riche en... humainement. C'est très, très riche humainement. Et puis après, on a un peu quitté tout le monde. Et là, on s'est retrouvés seuls sur notre bateau pour terminer l'aventure.
Et là, tu fais quoi ? Tu le ramènes où, alors, ton bateau ?
Alors, nous, on l'a ramené en Martinique parce qu'on a décidé de le vendre en Martinique. Et du coup, il est actuellement en vente.
Il est actuellement en vente, si ça intéresse.
S'il y a des intéressés, c'est un catamaran Astra 42.
Astra 42 à vendre. Et est-ce que tu as des copains qui t'ont rejoint sur le trajet ?
Alors nous avions vraiment dit pas de rendez-vous parce qu'en fait avec les fenêtres météo tu sais jamais quand est-ce que... et on n'avait pas pris beaucoup de rendez-vous mis à part avec les coéquipiers et heureusement parce que en fait on était assez libre d'aller là où on voulait quand on voulait et on avait des copains qui parfois étaient bloqués
attendre des potes qui doivent venir
qui doivent venir pour faire une semaine donc en plus c'était à chaque fois genre en Martinique en Guadeloupe ou à Saint-Barth ou machin ou dans des trucs où finalement ils auraient pu revenir et du coup un peu dommage et si j'ai un conseil à recommander aux gens qui partent c'est zéro rendez-vous quoi.
Ouais, partez libre, quoi.
Mais surtout qu'en fait, j'ai jamais rencontré autant de gens que pendant cette année en bateau. Donc en fait, j'ai jamais eu une vie sociale aussi riche. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent oui, mais on va être seul, etc. Donc c'est sympa de faire venir des gens. Mais en fait, en bateau, on n'est jamais seul.
Et une fois, on a parlé budget quand tu m'as dit les prix du bateau. Mais une fois que tu as payé ton bateau, en fait, ça coûte cher cette année de voyage ou pas ?
Oui, alors c'est assez conséquent, mais après, tout dépend. Si tu vis d'amour et d'eau fraîche et que tu restes sur ton bateau tout le temps, tu ne fais que des îles, etc. Globalement, ça va. Après, si tu décides de visiter chacune des îles sur ce qu'elle tu es, tu décides de louer des voitures, ce qui était notre cas, nous, on voulait vraiment profiter à fond. Donc, à chaque fois qu'on est dans des endroits...
Ouais, te faire un petit resto, louer une voiture...
Si tu fais des restos, tu loues des bagnoles à chaque fois. Il y a aussi l'essence de temps en temps, parce que même si c'est un voyage où tu navigues grâce au vent, à la voile, bah, parfois, tu utilises ton moteur, l'essence, c'est quand même assez conséquente. Tout dépend de ton bateau, encore une fois. Plus c'est un gros bateau, plus ça va te coûter cher. Tout ce qui est problématique sur le bateau, c'est-à-dire que en bateau, t'as un problème sur ton bateau, très vite, ça peut
ça coûte cher, quoi.
C'est un truc qui pète sur ton moteur, très vite tu peux
avoir... Malgré la formation moteur de Mathieu.
Exactement. dès que t'as un truc sur ton bateau, ça te coûte une blinde. Donc alors si t'as zéro truc sur ton bateau, bah génial, mais bon, je connais personne.
Non mais faut prévoir un peu quoi, faut prévoir un peu de sécurité.
Un peu de sécurité, on a des copains qui ont été à deux doigts d'arrêter parce que merde sur le bateau, bim, 10 000 balles à sortir, ils les avaient pas, ils étaient à deux doigts d'arrêter le voyage. Donc ça, les problèmes de bateau, malheureusement, c'est hyper aléatoire, on peut pas savoir. Et effectivement, après, tout dépend de si tu visites, si tu vas au resto, ou tu fais tes courses. Alors c'est sûr que si tu fais que pêcher, et, parce que les courses au Cap-Vert et dans les îles, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que tu peux en avoir parfois pour 10 euros ta tomate. Donc faut savoir que tout ça, c'est un énorme budget. Qu'après, encore une fois, si tu vis d'amour et d'eau fraîche sur ton bateau, bah, ça va pas te coûter grand-chose. Mais si tu voyages, tu visites, tu fais du tourisme et tu te fais plaisir, bah, ça va vite, quoi. Ouais. C'est comme si t'étais en vacances, en fait.
Ouais, c'est comme si t'étais en vacances pendant un an. Le rêve. Donc après, tu rentres. Qu'est-ce qui se passe quand tu vides ton bateau? À quoi tu penses?
Bah, c'est triste, hyper nostalgique, parce qu'en plus, tu t'attaches beaucoup à ton bateau. Et nous, bah, y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où on a un peu quitté tous nos amis bateaux. Donc déjà, c'était un peu la fin de l'aventure. On s'est retrouvés un peu. Et l'étape où on est retourné vers le marin, on a commencé à faire nos cartons et vider le bateau. Et là,
cartons, vraiment? T'as fait des cartons comme un déménagement?
En fait, ouais, on pensait pas. Mais en fait, on avait...
C'est pas mal, en fait. C'est mieux que essayer de tout faire rentrer dans des valises, non?
Bah, on avait quand même 14 cartons.
Mais en fait, mais parce que là, tu reprends aussi tes poils, tes couvertures, tes couettes, j'en sais rien, comme un appart, quoi.
Exactement. Alors bon, tout ce qui était literie, moi, j'ai tout laissé parce que c'était adapté. On avait des lits quand même beaucoup plus petits que nos lits de base. Mais en revanche, ouais, effectivement, en truc de cuisine, j'avais apporté des trucs. Puis ça va très vite, les gilets de sauvetage des enfants, des jeux d'enfants, des bouquins. Je sais même plus ce qu'il y avait dans ces sacs, mais on était hallucinés. Il y en avait quand même 14 qu'on a fait affréter, du coup, en avion.
Et après, on avait 4 valises.
Ouais, j'ai fait un petit déménagement, ouais, on avait quand même des choux. Bah, en fait, c'est l'avantage quand même du bateau, c'est qu'en fait, c'est une maison flottante.
C'est génial.
Et moi, j'avais des copines qui me disaient, mais du coup, ça, c'est pas trop dur. Non, en fait, j'ai manqué de rien. Tu peux quand même prendre pas mal de choses.
Non, et puis je trouve que même pour les enfants, ça fait un vrai point d'ancrage, alors que tu vois, genre le monde entier, mais t'as ton lit, t'as ton petit coin, t'as tes...
Ah bah,
c'est ce que j'adore aussi avec les méga camping-cars où, qui traversent l'Afrique et tout. C'est, je trouve que pour les enfants, tu vois plein de choses, mais t'as quand même un repère tous les soirs au même endroit avec ton doudou, peu importe ton lit bébé, ce que tu racontais pour ta fille.
Exactement.
Et c'est assez extraordinaire, je pense.
Exactement.
En famille.
Ah, mais exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'un bateau, c'est beaucoup plus logeable qu'une caravane. Hein. Mm. Et effectivement, ma fille de 2 ans, bah, pendant 1 an, elle a dormi tous les soirs dans le même lit.
C'est assez extra pour un petit, je pense.
Ça change tout. Mm. Ça change tout.
Malgré toutes les aventures qu'elle prenait dans la journée et toutes les découvertes elle avait son moment.
Parce que je pense que le cauchemar d'avoir un enfant en bas âge, c'est un enfant qui te réveille toutes les nuits. Bah, moi, elle ne me réveillait pas du tout la nuit parce qu'elle dormait. Enfin,
elle était bien, quoi.
Bah, elle était tout le temps au même endroit. Et effectivement, tu peux quand même avoir pas mal de trucs. Enfin, moi, je me suis pas dit, oh non, j'aurais dû prendre ça. Franchement, niveau fringues, j'avais quand même. Franchement, j'avais pas mal de trucs.
Je vous invite à regarder le compte Instagram d'Amissi qui avait pris 2-3 tenues.
J'avais quand même des trucs, quoi. Enfin, j'étais pas limitée, pas trop limitée.
Et dans l'avion, tu pleures ou pas?
Et dans l'avion, on a pleuré avant, on a pleuré quand on a quitté le bateau, on a pleuré.
Tu repars ou pas?
Alors déjà, on va remplir la caisse de bord parce que tout ça a quand même un petit coup. Donc déjà, on va rebosser. C'est sûr que le fait d'être sorti de notre zone de confort de manière aussi intense ouvre le champ des possibles de manière assez large. Je pense que ça va nous donner des ailes pour la suite.
C'est sûr, non?
Oui.
Et tu vas faire quoi cet été?
Et là, bah, assez classique. Après, il y a une chose aussi, c'est que ce voyage, on s'est quand même rendu compte que la planète, c'était quand même très, très compliqué au niveau de la pollution. On a vu énormément de plastique dans les océans. Et le fait de vivre quand même en autonomie avec nos panneaux solaires, à boire l'eau de la mer, à ne pas prendre l'avion pendant 1 an, les moyens de transport, etc. On n'a pas bouffé de quasi de viande pendant 1 an, on pêchait. Donc, on a vécu quand même de manière...
T'as réalisé beaucoup de choses.
Et ben, ça nous a mis quand même dans un mood où on s'est dit, franchement, on va peut-être faire plus de vacances en France. On va peut-être vivre de manière plus simple. Là, je suis rentrée dans l'appart. J'étais mais effrayée par le nombre de vêtements dans ma garde-robe et dans le dressing de mes filles, du nombre de jouets. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et essayer de vivre, en tout cas, ce qui est sûr, de manière plus épurée, plus simplement. Alors, on était déjà un petit peu dans ce mood-là avant de partir, mais le fait d'avoir vu des endroits quand même qui sont très abîmés, ça nous a fait prendre conscience de l'urgence climatique. Alors, elle est réelle, mais le fait de l'avoir vue sous nos yeux pendant un an et d'avoir surtout vécu de manière très simple, parce qu'en fait, pendant un an, enfin, moi, je ne me suis quasi pas acheté de fringues pendant un an. Alors, mes copines vont dire, ah, menteuse.
Mais tu comprends que tu n'as pas besoin de tout ce qu'on a la chance d'avoir.
Je ne me suis rien acheté pendant un an. On n'avait pas Amazon. Et en fait, je n'ai pas été malheureuse du tout. Et au final, j'avais trois robes, trois... Bon, après, j'étais en été, c'est facile à dire, mais... Ce que je veux dire, c'est que là, direct, on rentre à Paris et direct, limite, on sait. Mais non, mais on était là en train de dire, ah, ben on n'a pas ça, il faut le commander sur Amazon. En fait, on a tellement tout à proximité qu'on est amené à acheter des trucs dont on n'a absolument pas besoin. Alors là-dessus, j'espère qu'on va réussir à garder cet esprit-là le plus longtemps possible parce que là-dessus, ça nous a vraiment changé.
Bah, merci beaucoup. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, alors. Il y a un bateau à vendre si ça intéresse quelqu'un.
Me contacter. Ben merci à toi, j'étais ravie de partager mon expérience sur ton podcast.
C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage, ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite, merci et à bientôt.